craquer ce
Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Je ne voyais pas venir la sécheresse aussi vite qu'elle est venue. La petite élévation de température, on a probablement dans les 30 dernières années augmenté d'un demi degré. Cette petite augmentation-là semble avoir des conséquences extrêmement importantes. Température plus élevée, à peu près autant de précipitations, réparties différemment, mais surtout beaucoup plus d'évaporation. L'idée de la catastrophe, oui, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Ça se voit d'abord sur des écosystèmes. Les baisses au robinet, c'est plus souvent des questions de pollution, plutôt qu'il n'y a plus d'eau à l'endroit où on était.
Catastrophe, oui. Réchauffement climatique, oui. Canicules à répétition, oui, comme on l'a notamment vu au cours de l'épouvantable été 2022. Préambule des étés à venir. Et donc sécheresse, oui. Mais au risque de vous choquer, le principal problème ne serait pas seulement le manque d'eau au robinet. Dans ce cycle de l'eau, dans cette chaîne, tous les maillons sont attaqués. La pénurie d'eau ne serait que l'un des nombreux symptômes du mal qui ronge notre biotope, cette « nature », entre guillemets, bien mise à mal par les activités industrielles, mais « nature » qui nous permet encore de vivre, de respirer, de boire, de manger. Si elle peut nous sembler flagrante pendant les canicules, la pénurie d'eau ne serait donc pas notre principal problème. Enfin, c'est du moins ce que je crois comprendre en écoutant Gilles Deguay, que vous avez déjà rencontré dans cette émission et qui connaît très bien la question de l'eau. Gilles est notamment membre historique de la CEPANT, Association d'études de protection et d'aménagement de la nature en Touraine, elle-même membre de FNE, France Nature Environnement, Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Et c'est aussi au titre de représentant de FNE que Gilles siège au comité de bassin Loire-Bretagne avec des représentants de tous les usagers de la Loire, dont les agro-industriels. Gilles est donc un militant écologiste chevronné qu'on a déjà croisé autour des faucheurs volontaires d'OGM ou en manif contre les méga-bassines. Alors les méga-bassines, hein, vous le savez, on vous en a déjà parlé, ce sont ces absurdes et mortifères bassins de rétention d'eau mis en place par l'agro-industrie et notamment pour irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux. Privatisation et vol de l'eau, ressources vitales et communes pompées directement dans des nappes phréatiques déficitaires dès le printemps. Alors on va aujourd'hui à nouveau beaucoup vous parler de la Loire, qui passe par chez moi, mais la Loire, à titre d'exemple, pour parler de l'eau en général. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre saga SOS H2O ou Secours avec Gilles Deguay. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bon, l'eau, on a tous appris à l'école, H2O, de l'hydrogène, de l'oxygène. Sur notre planète, il y a la même quantité d'eau tout le temps. Il ne s'en crée pas, il ne s'en détruit pas, c'est juste qu'elle change de forme. Elle peut être dans la nappe phréatique, soit évaporée sous forme de nuages, soit polluée et sagouinée quand elle est stockée dans les méga-bassines où elle croupit avant éventuellement d'aller arroser du maïs destiné à nourrir des bestiaux. Mais en fait, il y a toujours sur notre planète la même quantité d'eau. Ce sont ses formes qui changent. Elle peut être sous forme de nuages, elle peut être sous forme de glaciers, mais en fait, c'est toujours la même quantité d'eau. Et je trouve ça stupéfiant, en fait.
Oui, alors, grosso modo, c'est vrai. avec les échelles qu'on a, c'est vrai. D'abord, ce qui est sûr, c'est que si on fait de l'eau à partir d'autres matériaux, ça veut dire que les autres matériaux, il y en a moins après.
Il y a une question sous-jacente, évidemment, parce que nous, au moment où on se parle, là, on est dans cette période de crise de canicule et de sécheresse de l'été 2022, qui annonce les étés à venir. Pourquoi pas se dire bêtement, il manque de l'eau, c'est la sécheresse. Eh ben, on n'a qu'à en fabriquer. Hein, on prend des atomes d'hydrogène, on prend des atomes d'oxygène, et puis ça fait de l'eau.
Ça ne marche pas comme ça, et des synthèses de l'eau à partir de deux autres produits, c'est plus qu'infinitésimal, c'est totalement, totalement négligeable. Donc, grosso modo, ce que tu as dit au départ, c'est qu'il y a la même quantité d'eau de façon totalement permanente, qu'elle soit en vapeur d'eau, qu'elle ne le soit pas, et tout, c'est toujours la même quantité. Je vais dire deux, trois choses rapides. Mais j'ai pas les pourcentages ici, là, parce qu'on se cause sur une terrasse, donc c'est pas... Mais la CEPONT fait des formations, a fait des interventions dans les lycées dans lesquelles on présentait les choses. En gros, la plus grosse quantité de l'eau sur cette planète, c'est de l'eau salée. Mais c'est colossal, hein. Il y a beaucoup plus d'eau salée que d'eau douce. Une fois qu'on regarde dans les eaux douces, ben, c'est les glaciers. Et c'est encore colossal par rapport au reste. Quand on a fini d'enlever les glaciers, il y a des nappes souterraines, dont certaines sont des nappes qu'on dit fossiles, dans lesquelles l'eau reste pratiquement, et donc ça fait encore une certaine quantité d'eau. Après, il y a celle qui s'écoule. Et donc, en gros, l'eau à laquelle on a accès, et même peut-être même simplement l'eau qui pleut, qui tombe, hein, parce que c'est souvent celle-là qui est donnée comme élément de référence. L'eau, on sait, on connaît les précipitations, on doit pouvoir sommer ça sur l'ensemble de la planète, et ça pourrait donner ce qui est utilisable. Par rapport à l'ensemble de l'eau qui est sur Terre, c'est pas beaucoup, c'est très peu. Je pense que c'est de l'ordre du 1% ou des choses comme ça, mais guère plus. Et donc, on est sur des quantités extrêmement faible, ce qui, entre parenthèses, règle la question de pourquoi ne pas en fabriquer. Franchement, étant donné tout ce qu'il y a dans la mer, il n'y a pas besoin d'en fabriquer, il suffit de la dessaler et c'est bon. Donc, on en a aussi.
C'est pas aussi simple que ça, ces opérations de désalinisation-là.
Je n'ai pas dit que c'était simple, mais les opérations de synthèse de l'eau sont des opérations qui demandent de l'énergie, les opérations de désalinisation en demandent aussi beaucoup et on se heurte à une autre limite. Et c'est aussi une des caractéristiques de la crise écologique qu'on a maintenant, qui n'est pas que une crise climatique, qui est une crise de ressources globales. Et donc, oui, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, on pourrait faire des tas de choses. On pourrait produire probablement quelques litres de flotte, mais sauf que c'est dément parce que justement de l'énergie, on en a aussi besoin par ailleurs. Donc il y a des questions d'équilibre. On est dans une situation particulière qui est qu'on n'a pas une crise écologique, mais ça c'est ce que les esprits un peu simples oublient. Il n'y a pas qu'une crise climatique, par exemple. Il y a une crise climatique, il y a une crise sur d'autres ressources, il y a des crises partout. Et la caractéristique de ces crises, c'est qu'aucune n'est réellement indépendante de l'autre. Et que donc il n'y a pas de solution de l'une qui n'ait pas de conséquence sur l'aggravation de l'autre. Ce qui crée des situations complexes dans lesquelles il faut évidemment changer les modes de production et de consommation. D'accord ? Ça, c'est absolument clair, parce que toutes les limites, on les rencontre partout, et il n'y a pas de solution technique qui ne se heurte pas à une autre limite derrière. Je ferme cette parenthèse-là. De l'eau, donc il y en a beaucoup. De l'eau utilisable facilement, il n'y en a pas tant que ça. Alors ensuite, du coup, il faudra se poser la question de à quoi on l'utilise. Il y aura forcément une discussion sur comment on l'utilise, mais on y viendra peut-être après sur des points de vue moins généraux. Et j'en profite pour dire que la vapeur d'eau est aussi un très fort gaz à effet de serre. J'avais posé des questions à un moment à des gens de l'Institut Négawatt, qui travaillent forcément sur ces questions-là. Et est-ce que la vapeur d'eau, par exemple, produite par les usines nucléaires, les refroidissements des usines nucléaires, ça largue de la vapeur d'eau dans l'atmosphère? Plus de vapeur d'eau, plus de gaz à effet de serre, est-ce que ça ne contribue pas au réchauffement climatique? La réponse était oui, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre et donc contribue à un réchauffement. Est-ce que le fait de l'envoyer dans l'atmosphère change de façon significative les concentrations de vapeur d'eau? C'est pas sûr. Et puis en plus, ça finit par retomber. Donc, au bout du compte, dans le cycle de la vapeur d'eau, peut-être que ça ne change pas fondamentalement, globalement, la quantité de vapeur d'eau dans le ciel. Donc là-dessus, je mets de l'incertitude. L'eau, c'est un cycle hyper compliqué. Hyper compliqué. Comment ça se joue? La vapeur d'eau qu'on envoie, où est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle arrive quelque part? Donc ça, c'est la première question. C'est est-ce que les concentrations de vapeur d'eau changent dans l'atmosphère? Je pense que non. Mais encore une fois, je m'aventure sur un terrain qui est pour moi compliqué. Je vais expliquer pourquoi je me pose aussi ces questions-là. De manière à peu près maintenant constante, tous les gens qui travaillent sur l'eau, toutes les agences de l'eau, distinguent le prélèvement d'eau avec la consommation nette. C'est quoi l'idée ? C'est que quand on prélève pour de l'eau potable, on prélève dans le milieu, on récupère de l'eau, on la traite un peu plus ou moins, on la salit, on la charge de bon, on la pollue, on la dépollue autant que possible, on la remet dans le milieu. On la remet dans le milieu souvent très près de l'endroit où on l'a pris. Et d'une certaine manière, cette eau n'a pas totalement disparu. C'est un élément qu'on oublie souvent, alors que je raconte, puis c'est l'anecdote, on la donne tout le temps parce qu'elle frappe les esprits. Quand on pompe de l'eau à Blois, on pompe de l'eau dont l'origine peut être la sortie des stations d'épuration d'Orléans.
Je précise, sur le cours de la Loire, la Loire donc en région centre, Orléans est en amont de Blois.
Et après, on peut continuer, c'est pareil pour Tours et tout. Mais c'est vrai pour toutes les rivières. Toutes les rivières, un petit prélèvement d'eau dans la nappe d'accompagnement, dans la nappe juste sous la rivière ou dans la rivière, quand elle retourne à la rivière, d'une certaine manière, il y a une boucle qui a été formée, mais une grosse partie de l'eau, en quantité en tout cas, on la retrouve. C'est pas tout à fait la même chose quand on le met, par exemple, dans un refroidisseur de centrale nucléaire. Parce que là, la vapeur d'eau qu'on voit passer, là, celle-là, elle ne retournera pas dans le milieu, en tout cas pas sur place. Et donc, celle-là, on peut considérer, c'est ça qu'on appelle la consommation nette. Cette flotte-là ne réapparaît pas dans le milieu directement. Et donc, elle n'est pas réutilisable par celui qui est en aval, et ça change tout. Alors, d'abord, ça permet de se dire deux choses très importantes. Un, l'eau qui sort des stations d'épuration, ce n'est pas de l'eau perdue, ce n'est pas du déchet, ce n'est pas tout ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau, et d'ailleurs, depuis des décennies, on la réutilise si on est en aval de cette eau. Et donc, l'idée qu'en utilisant cette eau-là, tout d'un coup, on aurait trouvé une ressource absolument extraordinaire, c'est rigoureusement faux. On n'a trouvé aucune ressource extraordinaire. Si on l'utilise sur place, par exemple, pour aller arroser des cultures, c'est autant de moins qu'on trouvera à l'aval, et de toute façon, mais elle manquera quelque part. Voilà. Et donc, réutiliser de l'eau, oui. Utiliser de l'eau qui n'existe plus, de l'eau usée. Alors, j'ai fait une intervention un jour à l'agence de l'eau en disant que eau usée, je trouvais que ce n'était pas un très bon terme, parce qu'elle n'est pas usée, l'eau, elle est toujours là, hein, elle est chargée de trucs, on peut l'enlever, etc., mais elle n'est pas usée. Ce n'est pas le déchet tel qu'on rendrait service à tout le monde en l'utilisant et que ça serait double l'effet. C'est pas vrai du tout. Si on l'utilise, c'est de l'eau en moins qu'on n'a pas dans le milieu, point final. Pas tout à fait, puisqu'il y a quand même l'épuration et les choses dessus, mais en termes de quantité, c'est strictement ça. Si on l'utilise là, on ne l'utilise pas ailleurs. Premièrement, donc ça c'est un premier élément que je voulais donner. Et deuxièmement, alors je continue, qu'est-ce qui produit une grosse consommation nette? C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui évapore? Eh ben, ce qui évapore, c'est la cuisson des nouilles, mais tout le monde voit que c'est pas monstrueux, quoi, hein, quand même, la vapeur qui s'en va. Et donc, dans l'eau prélevée pour l'alimentation en eau potable, on estime que jusqu'à, bon, moi j'ai lu jusqu'à 15%, je pense que c'est même un peu trop, mais le reste est restitué au milieu. Pour l'agriculture, c'est pas le cas. Pour l'agriculture, une grosse partie de ce qui est consommé, soit part directement par évaporation, soit par la transpiration des plantes. Alors ça a un effet positif hein, sur les plantes, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est quand même de la vapeur d'eau, de l'eau qui ne réapparaît pas dans le milieu et qui part aussi dans l'atmosphère. Et donc, les deux gros facteurs, en tout cas sur notre bassin, qui consomme de l'eau en consommation nette, c'est l'agriculture et c'est tout ce qui est refroidissement thermique, dont globalement et majoritairement les usines nucléaires. Ça, c'est sûr, lié à la consommation. Et donc, pour revenir au projet de début, dans cette masse énorme d'eau, il y en a une petite quantité qui est utilisée, mais dans cette quantité qui est utilisée, elle est souvent réutilisée plein de fois. Elle sert à plusieurs usages, en particulier quand elle est dans l'alimentation en eau potable. Alors, qu'est-ce qui se passe de particulier et pourquoi la modification climatique change les choses? Je dois dire, alors moi personnellement, je ne voyais pas venir la sécheresse aussi vite qu'elle est venue. Je ne voyais pas venir. On avait des projections, des modélisations qui donnaient, suivant les échelles de température, qui essayaient d'examiner quels étaient les phénomènes physiques. Et la plupart disaient en gros qu'on ne changeait pas tellement globalement la quantité de précipitations dans un certain nombre de régions. Dans certaines régions, elles augmentaient. Ce qui semble accréditer l'idée qu'on obtiendrait à peu près les mêmes quantités de précipitations sur la planète modulée, mais avec des différences de lieux, avec éventuellement des différences de saison, mais encore pas tant que ça. C'est-à-dire que, en gros, les saisons qui étaient sèches auparavant restent sèches, les régions qui étaient plus arrosées restent arrosées, avec quelques variations, mais pas colossales, que par contre... Alors ça, ça commence à être connu et ça commence à être à la fois constaté, puis ça correspond à tout ce que j'ai lu, moi, sur les questions sur les modélisations, que par contre, les épisodes étaient des épisodes plus brutaux. En gros, il tombait à peu près autant d'eau, mais de façon beaucoup plus concentrée, sur une courte période de temps, au lieu d'avoir 3 semaines de flotte un peu réparties, on avait une grosse précipitation pendant 4-5 jours, puis suivie par une période où il y a moins d'eau. Tout ça, de toute façon, donnait finalement des espèces d'équilibre qui semblaient pas modifier de façon considérable les échanges, sauf peut-être avec, effectivement, l'idée qu'on risquait d'avoir, alors, du point de vue des inondations, des phénomènes dramatiques, et ça, en gros, ce qu'on a vu sur les ouragans, sur un certain nombre de phénomènes qui sont passés, y compris en France et en Europe, on peut imaginer qu'on a des éléments de mise en place de ce type de fonctionnement. Donc, en gros, à peu près autant de précipitations, mais réparties différemment, et en partie, et surtout, pas tellement réparties différemment dans l'année, mais réparties différemment sur une même période, avec des épisodes extrêmement concentrés, et donc des périodes qui, après, avaient très peu de précipitations. Peut-être que c'est ça qu'on voit sur les 4 ou 5 dernières années. Mais il y a un phénomène que, personnellement, je n'avais pas vu, puis je crois qu'on n'était pas beaucoup à l'avoir vu, et tout, il n'y avait pas tellement de littérature là-dessus, mais peut-être que je me trompe, c'est que ça ne rend pas compte complètement de la sécheresse, parce que on peut avoir la même quantité de précipitation, mais s'il y a beaucoup plus d'évaporation, on a une sécheresse importante. Et ce qui est en train de se passer, en tout cas sur les dernières années, et qui est extrêmement inquiétante, c'est que la petite élévation de température qu'on a constatée, c'est moins d'un degré. Hein. En ce moment, on estime qu'on a probablement, dans les 30 dernières années, augmenté d'un demi degré, en moyenne. Et ça, c'est des éléments factuels, puisque c'est les moyennes données par Météo France qui ont augmenté de 0,4 degrés sur 10 ans. C'est statistique. Donc, cette petite augmentation-là, relativement petite, semble avoir des conséquences extrêmement importantes parce que on a constaté, alors on a eu des sécheresses de début de printemps avec des sols qui séchaient extrêmement vite parce que la température était plus élevée, probablement des modifications d'orientation des vents, mais tout ça avec plein de bémols, des vents d'est arrivant, asséchant, des vents... Bon. Et donc, les phénomènes qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a probablement à peu près autant de précipitations, réparties différemment, mais surtout, beaucoup plus d'évaporation, avec l'inconvénient que l'évaporation, c'est un peu partout, et que donc ça touche pratiquement tous les secteurs des bassins versants.
Outre l'évaporation, tu as aussi mentionné les sols. Je reviens à ce combat qui a été mené notamment à l'ASA de Notre-Dame-des-Landes, qui était contre un grand projet inutile d'un aéroport qui sert à rien, qui était aussi la préservation de ce qu'on appelle une zone humide. Je pense par exemple au cri d'orfraie un peu hypocrite poussé par les médias dominants quand il y a des catastrophes à la Vaison, la Romaine, c'est-à-dire d'un seul coup des torrents de boue qui déferlent sur une ville, qu'emmènent les bagnoles, qui détruisent les maisons, qui machin. Bah oui, parce que l'eau n'est plus retenue. Nos anciens nous ont légué un paysage de bocage. C'était pas juste pour faire joli, ça servait notamment à retenir l'eau. Et ce qui a été mené comme combat à Notre-Dame-des-Landes, c'était aussi préserver cette immense éponge naturelle qui sert de stockage et qui évite surtout que des coulées de boue viennent déferler. Donc il y a l'évaporation, mais il y a aussi le fait que les sols d'aujourd'hui, surtout quand ils sont bétonnés, ne peuvent pas permettre cette perméabilité de cette eau qui tombe sous forme de pluie pour aller réalimenter les nappes. Parce que j'entends souvent les gens dire « Ah bah oui, les nappes phréatiques sont à sec, mais c'est pas grave, il va pleuvoir, ça va se recharger. » Bah non, en fait, l'eau, quand elle tombe sur du béton ou du goudron, elle va rien recharger du tout. Elle déferle sur le bled d'à côté.
On va raccorder avec mon propos précédent cette sous-estimation de tout ce qui se passe au niveau du sol. Elle recoupe des tas de problèmes qui, eux, sont connus depuis très très longtemps, qui sont que toute une série de modifications ont été faites avec comme effet, mais parfois avec comme volonté, de raccourcir complètement les délais entre le moment où l'eau tombe et le moment où elle s'en va. Alors, ces modifications sont de toutes sortes. Il y a des modifications du sol, c'est-à-dire de la composition du sol, c'est-à-dire qu'il y a des sols qui se gorgent d'eau et qui gardent l'eau, et il y en a qui le conservent moins. D'une certaine manière, mais je ne suis pas fort là-dessus, je crois que c'est lié à la question de l'humus dans le sol, et que quand on en perd, on est sûr qu'on va avoir moins de capacité à garder l'eau dans le sol. Donc cette question-là, une question agronomique, alors encore une fois sur les questions agronomiques, j'y vais doucement parce que je ne suis pas tout à fait sûr de tout ce que je dis, mais ça en tout cas c'est une réalité, il y a des sols qui gardent plus l'eau. Entre parenthèses, il y a aussi des sols qui captent plus le carbone, et c'est souvent les mêmes, et donc qui jouent un rôle sur les modifications climatiques. Et ces questions-là sont des questions qui ont des éléments directs sur le réchauffement et sur les effets. Donc, d'abord, il y a la question des sols. La question des sols, ça a aussi évidemment des effets sur les nappes en dessous, parce que c'est en passant dans les sols et en séjournant dans les sols que ça va pouvoir ensuite passer dans les nappes. C'est très long, les processus de descente dans les nappes. C'est pas un tuyau direct. Hein. Ça passe à travers des sols qui ont, entre parenthèses, des filtres en même temps. Tout ça, c'est des fonctions extrêmement importantes, mais il faut du temps, il faut que ça se fasse. C'est pour ça qu'on parle de pluie utile pour recharger les nappes. Et en gros, on sait que toutes celles qui viennent à partir du mois d'avril pratiquement ne rechargent pas les nappes. Et donc, on a besoin de l'hiver pour les recharger. J'ouvre une petite parenthèse, c'est pour ça que aller vider les nappes l'hiver est particulièrement dramatique, surtout si c'est pour les remonter. Bon, bref, sur des bassines, mais on peut y revenir après. Donc, les sols, les nappes. Alors ensuite, il y a tout un phénomène qui est probablement sous-estimé, c'est que pour pouvoir cultiver, il vaut mieux que le sol ne soit pas gorgé d'eau. Et donc on a drainé de façon considérable. Dans certains endroits, je pense à une étude qui est en train de se faire sur des sages, des projets de sages, schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont des déclinaisons du SDAGE à une échelle plus petite. Sur certains SDAGE, on se retrouve avec des surfaces drainées de l'ordre de 20% de la surface agricole. C'est énorme. 20% de la surface dans laquelle on a mis des installations pour enlever l'eau. Puisque le drain, ça n'a que cette fonction. Et donc, il y a toute une série de terres en France dans lesquelles on a, pendant des années, on s'est donné comme but d'enlever l'humidité qui séjournait, de façon à ce qu'elle se retrouve le plus vite possible plus loin. Alors maintenant, on essaye de les stocker, puis de les remonter. Enfin, bon, mais on est sur des trucs de Shadok. La question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est-à-dire purger le plus vite possible l'eau ? J'ai pas fini sur le fait de purger l'eau. Il y avait des rivières qui méandraient. Une rivière qui méandre, l'eau passe doucement et tout. Mais en général, elle a un peu tendance aussi à déborder sur chaque côté du méandre. Si on veut vraiment pouvoir tout exploiter, alors premièrement, le méandre, c'est pas pratique et tout, donc on la met bien droite. Une fois qu'on l'a mis bien droite, on la creuse un peu pour qu'elle sorte. Et le résultat, c'est que la flotte qui passait, je sais pas combien de temps, et qui se répartissait un peu partout, qui s'en est, elle arrive dans le tuyau, elle descend tout droit et elle s'en va. Et donc c'est aussi des phénomènes d'accélération des débits. C'est ces phénomènes-là qui ont produit à la fois des écoulements, des pertes de sol, purement et simplement, qui s'en vont dans la flotte, et puis des formes d'inondations dramatiques, plus dramatiques qu'elles étaient auparavant. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, hein, mais plus dramatiques parce que toute la flotte descend d'un seul coup et qu'on la voit apparaître très peu de temps après. Donc faisons la romaine, c'est en partie ça. Tous les phénomènes sur les villes qui sont juste en dessous des Cévennes, c'est ça aussi. Donc, alors, si on reprend, les cycles naturels de l'eau, c'est qu'elle tombe, elle arrive sur des sols qui, en principe, devraient les retenir, mais qui les retiennent moins. Elles arrivent sur des nappes où elles n'arrivent plus. Elles restent, elles séjournent sur un certain nombre d'endroits qui, en général, ont été drainés, etc. Et tout. Et donc, voilà. Et on est sur des phénomènes qui n'expliquent pas le phénomène climatique, mais qui font que la nature a été privée d'un certain nombre de mécanismes de régulation qui sont susceptibles de pouvoir répondre à des irrégularités de débit. Ils ne tombent pas de l'eau tout le temps. Et pourtant, les plantes en boivent tout le temps, autant qu'elles peuvent. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des phénomènes régulateurs. Ça veut dire qu'il y a des endroits où l'eau séjourne, des endroits où les rivières coulent tout le temps aussi. Donc c'est évident que c'est pas, même si on a 15 jours de sécheresse à un endroit, il y a quand même encore de l'eau dans les rivières. Il faut se demander d'où elles viennent. Elles viennent d'endroits de réserves qui ont été constituées par la nature un peu partout. Et donc, oui, il y a probablement des phénomènes de sécheresse, alors encore une fois, que je crois avoir sous-estimé sur les questions de température, de sol, d'assèchement, qui font que, en plus de tout ce qu'on avait fait auparavant, on perd de l'eau en surface. Mais deuxièmement, il y a la conjonction de ça avec d'autres phénomènes de destruction des équilibres qu'on avait auparavant, qui ont rendu la nature plus vulnérable et moins capable de répartir les équilibres. Et donc, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Mais moi, j'insiste sur le fait que ce n'est pas des solutions que nous trouvons, que nous allons suggérer à la nature. C'est juste qu'en observant bien les phénomènes, nous savons qu'il y a eu des phénomènes de régulation que nous avons en partie détruits et qu'il faut reconstituer. C'est un élément complètement important. Ça fait juste une dizaine d'années qu'on reméandre les rivières parce que ça permet de retarder, de laisser l'eau sur les bons endroits. Et tout. L'élément totalement dramatique, c'est effectivement ce que tu as cité tout à l'heure, c'est-à-dire les zones humides. Alors une zone humide, c'est quand même en général une zone plutôt un peu imperméable dans laquelle ça séjourne. Mais aussi imperméable soit-elle, si l'eau y séjourne, les vitesses de pénétration sont plus faibles, mais elles existent. Et donc, on fait séjourner de l'eau à ces endroits-là. Oui, c'est des éléments qui permettent de rétablir des équilibres naturels, tout bêtement. Voilà. Une dernière chose sur les zones humides. Les zones humides sont des éléments de captation du carbone. Les sols sont des éléments de captation du carbone, mais tous les sols ne sont pas équivalents. Et donc, il y a une vraie recherche à faire sur ça. Nous autres, Association Défense de l'Environnement, on a réussi à faire écrire dans le SDAGE, celui qui vient d'être voté en mars dernier, de faire écrire dans le SDAGE que les zones humides avaient un rôle dans la captation du carbone. Il a fallu deux séances pour arriver à imposer qu'on écrive seulement ça, qu'on écrive ça. Parce que la destruction des zones humides, c'est un sport national, c'est permanent. Et on est maintenant à essayer de retrouver des zones qui ont été humides, parce que on est capable de l'identifier, pour se poser la question de comment on fait pour qu'elles le redeviennent. Mais c'est des réorientations fortes qu'il faudra faire. Et ça fait partie des éléments de discussion qu'il faut avoir.
Le cycle de l'eau, ce sont des phénomènes extrêmement complexes, extrêmement fragiles. Je vois ce cycle de l'eau comme une chaîne. très délicate. On en a parlé lors de l'opération Mégabassine, pompée directement dans des nappes phréatiques déjà déficitaires pour arroser des cultures. Bon, là, je pense notamment à irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux. Maïs qui n'est pas du tout une plante autochtone adaptée à nos tropiques. Peut-être que le sorgho serait plus pertinent. Mais enfin, l'Europe met des subventions sur le maïs, donc on fait du maïs. Mais c'est une chaîne extrêmement délicate que si on fait sauter un maillon de la chaîne, on casse la chaîne. Il y a la nappe phréatique, il y a la source qui va alimenter la rivière, qui elle-même va alimenter le fleuve. Tout ça arrive à l'océan. Ça s'évapore, ça revient sous forme de nuages, ça repleut sur les montagnes et sur l'un, et ça recharge les nappes phréatiques. Or, si on casse un maillon de la chaîne, par exemple, vider la nappe phréatique pour des usages tout à fait discutables, eh ben, on casse la chaîne. Je suis terrifié, parce que je me dis, ça veut dire qu'à très court terme, je ne dis pas 15 ans, mais peut-être une poignée d'années, est-ce que ça veut dire qu'un matin, je vais me lever et que je vais ouvrir mon robinet et qu'il n'y aura pas d'eau qui en sortira parce qu'on aura cassé la chaîne ?
Ouais. Alors, je pense que l'idée de casser la chaîne introduit l'idée d'une rupture globale et que c'est plutôt des petites ruptures successives.
Tous les maillons sont attaqués.
Tous les maillons sont attaqués. Je ne suis pas pour décrire une catastrophe immédiate, globale, machin et tout. Alors c'est bien ça qui est compliqué.
On voit déjà dans certains départements français qui sont obligés de faire venir de l'eau du département d'à côté, enfin, parce qu'il n'y a plus d'eau chez eux. J'ouvre mon robinet, il n'y a pas d'eau. C'est déjà une réalité vécue par des Français de 2022.
Oui. Non mais d'accord. C'est une réalité, mais ce n'est pas une réalité massive. Pas du tout. Comme en plus, on met la priorité sur l'eau potable, et on voit bien pourquoi. C'est quand même un peu vital. Il y a une priorité là-dessus, et c'est normal qu'on la mette. En plus, avec la petite clause que j'ai rajoutée, qui est que c'est une eau qui passe dans un cycle plus compliqué, et que donc il ne faut pas trop culpabiliser sur ces questions-là. Il y a de la flotte, elle est renvoyée, et pour l'instant, sur les systèmes, on est... Alors en plus, il faut rajouter aussi que ça a plutôt tendance à baisser la consommation d'eau potable au robinet. Il y a deux explications à ça. La première, c'est que l'augmentation très globale correspond à des augmentations d'aménagement des maisons considérables. Salle de bain, machine à laver, tout ça, ça a augmenté la pression en eau du robinet et ça a augmenté de façon très considérable, mais dans les dernières décennies. Et après, ça a plutôt tendance à baisser. D'abord parce que les modifications se sont arrêtées. C'est-à-dire que quand tout le monde a les baignoires, tout le monde a les baignoires. Comme en plus, on transforme plutôt les baignoires en douches et que les douches, ça consomme plutôt moins que les baignoires, on a commencé à baisser les consommations. Et grosso modo, pratiquement tous les réseaux de distribution d'eau ont plutôt un problème de baisse des consommations que d'augmentation effrénée des consommations, sauf évidemment quand il s'agit de nouvelles populations. Mais... en gros, à population égale, ça a plutôt tendance à baisser. Et puis aussi parce qu'on y fait attention, parce que bon, il y a toute une série de choses qui vont là-dessus. Globalement, c'est pas un énorme problème, et donc c'est probablement pas ça qu'on verra d'abord. Ce qui est presque le plus dramatique, et on va peut-être revenir à un vieux débat qu'on a eu la fois d'avant, c'est que c'est l'endroit qui souffre en premier, qui se modifie en premier, c'est les écosystèmes. C'est là qu'il y a des modifications importantes qui bougent. Et il y a des espèces de poissons qui risquent de disparaître simplement parce qu'ils ne respirent plus. Parce que la température de l'eau va être passée au-dessus de 25, 26, 27 degrés et que c'est plus adapté pour eux. Alors, l'idée de la catastrophe, oui, nous sommes dans une situation extrêmement grave par rapport à un certain nombre de choses. Ça se voit d'abord sur des écosystèmes. Il y a des rivières qui ont des assecs. Et une rivière qui a des assecs, ça veut dire qu'on passe plus, on remonte plus, ça redescend plus. Et puis, l'élément ultime, c'est que quand une petite mare qui a été faite entre deux zones s'assèche elle-même, les poissons, ils crèvent. Sauf si les fédérations de pêche font le boulot qui n'est pas véritablement leur boulot, mais qu'ils sont bien obligés de faire, qui consiste à aller chercher des poissons et les mettre dans un autre endroit où ils peuvent vivre. Donc, oui, c'est absolument grave. Ça se traduit parfois par des baisses au robinet. Il faut quand même le dire, les baisses au robinet, c'est plus souvent des questions de pollution qui font que l'endroit où on était, on a été obligé de couper et qu'à ce moment-là, on est obligé de mettre une eau dedans, plutôt qu'il n'y a plus d'eau à l'endroit où on était. Mais bon, c'est aussi possible, donc il peut arriver des éléments comme ça. Je crois pouvoir dire qu'à Guéret, il y a eu effectivement des questions, des incertitudes sur l'eau potable, parce qu'il n'y avait plus de ressources dans les réserves. Ça peut arriver, honnêtement, si on fixe trop sur ça, on va se rendre compte qu'on arrivera à régler cette question-là et que pour autant, on ne verra pas l'énorme problème qu'il y a par ailleurs. Donc, ce n'est probablement pas cet élément-là qui montrera la gravité. Si on reprend, premièrement, il y a tous les éléments du milieu naturel qui devraient revenir à un fonctionnement plus harmonieux et dans lequel on pourrait ensuite regarder quels sont les prélèvements. Ensuite, regardons la question des prélèvements. Ne refroidir une centrale nucléaire, je ne suis pas sûr que ça soit un besoin qui ne soit pas questionnable. En tout cas, mettre des centrales nucléaires partout, ça suppose en tout cas de se poser la question de ce qu'on va faire de la flotte qu'on envoie. Et donc, moi, je suis stupéfait d'entendre des gens donner comme une solution extraordinaire, mais qui ne voient pas que, ben, si, ça prend de l'eau, ça l'évapore. Alors, jusque-là, ça évaporait de l'eau. Les quantités données, on pouvait considérer qu'elles étaient absorbables par le milieu. Mais c'est toujours pareil, si le milieu a moins de capacité d'absorber et si de l'autre côté on en demande plus, il y a forcément un effet de ciseau dans lequel ça ne fonctionnera pas. Donc oui, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut coller des centrales nucléaires partout, sauf peut-être sur la côte, parce que là c'est de l'eau salée. Ensuite, il y a la question de l'eau qu'on utilise, comment on priorise, et on va tomber sur la question du maïs que tu as posé tout à l'heure.
Eh ben oui, maïs industriel qui nous ramène donc à l'affaire des mortifères mégabassines, ces absurdes bassins de rétention d'eau que l'agro-industrie veut installer partout. Privatisation et vol de l'eau, ressource commune et vitale, privatisée dès qu'elle est pompée directement dans des nappes phréatiques déficitaires dès le printemps. C'est vraiment malin comme modèle agricole. Une eau que les agro-industriels s'accaparent, notamment pour irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux. Ce qui, en tirant par les cheveux, nous amène à notre pause musicale où comment le débit de l'eau est transformé en débit, non pas de lait, mais de viande. Tout ça pour lancer un Charles Trenet.
Deux boutiques, dans l'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les beaux le débile, à qui les lait le débile, débile si beau, débile aussi lait. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débile. Au débit d'eau, il y a le beau bobby. Au débit de lait, il y a la belle babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babée sont ennemis, car les badauds sont emballés par les bidons de lait de babée. Mais on maudit le lent débit, le lent débit des longs bidons du débit d'eau de bobby. Aussi babée, ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de bobby. Et bobby lui répond en vidant les bidons d'eau sans débit, allez donc. Oh, les bidons d'eau sans débit, allez donc. Les bidons d'eau sans débit, allez donc. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babée. Les v'là tous deux en ménage, le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc et chacun dit en y allant: à qui les vole le débit de lait? Oh, quel palais le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau, bah palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau et la Babée de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons lait de Babée. Oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la Babée jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons. C'est Bobby, c'est Babé, allez donc. Fidlididum, vadum, vadum, dadum, papadaladum, dadum.
Débit de l'eau, débit de lait, Charles Trenet, avant de retrouver Gilles Deguet, militant écologiste siégeant au comité de bassin Loire-Bretagne, en tant que représentant de France Nature Environnement. Alors tout à l'heure, on évoquait à nouveau le scandale des méga-bassines, le mésusage de l'eau, qui est pourtant un bien commun, mais qui se retrouve privatisé, gaspillé, sali, évaporé pour des cultures agro-industrielles. Gilles a aussi commencé à nous parler d'un autre usage de l'eau de la Loire, dont on se sert aussi pour refroidir des centrales nucléaires, enfin, tant qu'il y a de l'eau dans le fleuve, évidemment. Mais l'eau recrachée par une usine nucléaire a été chauffée, ce qui change la température du cours d'eau, et donc bouleverse son fonctionnement, et fait notamment crever des poissons, ce qui reste. L'eau du fleuve qui a refroidi une installation nucléaire se transforme aussi en vapeur d'eau. Elle s'évapore, se transforme donc en nuage dont on ne sait pas où il va. Et donc la pluie de ce nuage d'évaporation ne retourne pas forcément au fleuve. Cette eau douce, on va prendre la Loire, qui est utilisée pour refroidir les centrales nucléaires, donc évaporation, elle disparaît. Et tu avais fait le compte, sur la Loire, on en a un certain nombre de centrales nucléaires. Je pense à notre région centre, là. Il y a Saint-Laurent-des-Eaux, plus en amont, du côté de l'Orléanais et le Blaisois, puis plus en aval de nous, on a Chinon. Et en fait, tu disais une centrale, plus deux centrales, plus trois centrales. En fait, ça fait finalement un sacré pourcentage d'eau douce de Loire qui s'évapore et qui va, sous forme de vapeur, on ne sait où.
Alors, moi j'ai fait des calculs à un moment très rapide. Un réacteur en fonctionnement, c'est 3 quarts de mètre cube par seconde qui est évaporé. C'est plus prélevé, hein. C'est 2 mètres cubes par seconde prélevé, mais ce qui est évaporé, c'est 3 quarts de mètre cube. C'est des moyennes, parce que ça dépend des réacteurs, ils n'ont pas tous la même puissance, et tout, ça dépend de la génération, mais grosso modo, c'est 3 quarts. Si on considère l'ensemble des centrales nucléaires de la Loire et de la Vienne, parce que c'est un affluent, moi j'étais arrivé à environ une douzaine de réacteurs, et je pense que je suis un peu en dessous même, 12 réacteurs à 3 quarts, ça fait 9 mètres cubes par seconde. 9 mètres cubes par seconde, dans un débit naturel de la Loire moyen, le débit moyen de la Loire, c'est plusieurs centaines de mètres cubes. Donc c'est pas grand-chose. Le problème, c'est quand on le compare avec des étiages, au moment où il y a très peu d'eau. La Loire, une caractéristique, c'est qu'elle est extrêmement irrégulière, mais irrégulière à un point qu'on n'imagine même pas. Le rapport entre l'étiage le plus sévère constaté. Alors l'étiage, c'est la situation d'étiage, c'est la situation de basse eau. D'ailleurs, de temps en temps, on a des débats sémantiques sur est-ce qu'on met étiage ou est-ce qu'on met basse eau. Enfin, ceci dit, c'est quand même la même chose. On donne des records d'étiage. D'ailleurs, on dit l'étiage le plus sévère constaté. Celui qui est donné comme référence, en général, maintenant, c'est 11 mètres cubes par seconde sur la Loire moyenne. Donc 11 mètres cubes par seconde, si on compare au prélèvement des centrales nucléaires à 9 mètres cubes par seconde, on voit bien que c'est totalement pas supportable, c'est pas possible. Mais ça, c'est un étiage sévère en 49, une fois par siècle. Si on descend à des étiages naturels 20, 25 mètres cubes par seconde, 20 mètres cubes par seconde, c'est quand même encore pas loin de la moitié du prélèvement. Celui-là, il doit se produire un peu plus souvent, à 20, et donc tant qu'on est à pas loin d'un tiers ou un quart, c'est effectivement significatif. La plupart du temps, ça ne l'est pas. Quand il y a 2000 mètres cubes par seconde dans la Loire, ce qui arrive de temps en temps en hiver, prélever 9 mètres cubes, ça ne se voit pas trop. Mais la Loire est un fleuve extrêmement irrégulier, et donc, oui, ça peut poser des problèmes. Après, si on continue sur les centrales nucléaires, je veux rajouter que les centrales nucléaires ont besoin d'un débit de la Loire bien supérieur à ce que j'ai dit. Donc c'est pour ça qu'il y a deux barrages qui assurent le soutien de l'étiage sur la Loire, le barrage de Villeray et le barrage de Naussac. Et leur objectif est en principe de maintenir 50 mètres cubes par seconde sur toute la Loire moyenne, là où sont les centrales. Mais dans ce cas-là, c'est pour diluer les apports d'eau polluée qui sont envoyés par les centrales, qui ont des effluents radioactifs, et le législateur a estimé qu'il fallait que ça soit suffisamment dilué pour que ça soit considéré comme inoffensif. Ces apports étant essentiellement du tritium, mais pas seulement. Voilà. Il y a donc deux caps, hein, en gros. Hein. Consommation environ 9-10 mètres cubes par seconde, globalement, mais débit nécessaire pour diluer 50 mètres cubes par seconde. Les autres questions d'utilisation. Les règles actuelles du Code de l'environnement, c'est 1. Eau potable et sécurité civile. Si les pompiers ont besoin de flotte et qu'ils n'en trouvent pas, ça commence à devenir plus dramatique qu'autrement. Parenthèse, la plupart du temps, c'est quand même directement sur un réseau hein, qu'ils vont chercher et tout. Mais c'est effectivement une nécessité absolue d'avoir ça. C'est 1. 2. Et nous, on trouve qu'il y a déjà un petit problème, c'est les milieux naturels. Les milieux naturels, des fois, c'est oublié complètement. Et puis ensuite, il y a les usages. Et dans les usages, on a très très vite les questions de l'agriculture. Donc, première chose, il faut s'interroger sur tous ces usages-là, y compris dans les usages d'eau potable. La question des piscines est interrogeable, c'est évident. Bon. Tous ces éléments-là, et dans l'agriculture, on ne peut pas dire simplement l'agriculture a besoin d'eau. Parce que toutes les agricultures n'ont pas les mêmes besoins d'eau, et tous les usages qu'on a ne sont pas forcément considérés comme aussi utiles du point de vue de la société. Mais ça suppose ça, à ce moment-là, de se poser des questions de société, là, pour en parler, et notamment des questions de société sur qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qui est nécessaire à produire, à quoi on joue dans ce qu'on fait. En ce moment, il faut bien dire que plein de cultures en Europe et puis dans le monde sont fondées sur le prix de vente du produit. Par exemple, en ce moment, il y a eu un problème sur le tournesol parce qu'on s'est dit qu'il allait plus en venir d'Ukraine, etc. Et tout. On va faire le compte là maintenant, mais c'est une notoriété publique, puis les agriculteurs le disent. Le prix du tournesol a augmenté, on a planté plus de tournesol. Mais il y a plus de tournesol. Alors il se trouve, le tournesol, ça demandait plutôt moins de flotte que le maïs. Donc ça a été plutôt bien, de ce point de vue-là, sur les trucs. Mais enfin, on voit bien que si c'est dans l'autre sens que ça fonctionne, ça changera beaucoup, on prélèvera plus de flotte. Le maïs, c'est quand même très très lié à une consommation de viande importante. La plus grosse partie du maïs cultivé, c'est de la nourriture pour les animaux. Le maïs demande de la flotte à des périodes où il n'y en a pas dans les rivières, où il n'y en a pas dans les sols, où il n'y en a pas tout ça et tout. Et donc c'est effectivement un très consommateur. Et honnêtement, il faut se poser ces questions-là. Il faut se poser ces questions-là, comme il faut aussi plus globalement se poser, notamment sur la question du réchauffement climatique, il faut se poser la question du contenu de la nourriture. Il y a un scénario qui s'appelle After 2050, qui est un scénario qui fait partie du scénario Négawatt, qui sont liés entre eux, et qui examine ce que pourrait être une agriculture durable en France en 50. Il a d'ailleurs aussi été décliné au niveau de la région, donc il est consultable. Si on veut aller le chercher, on va le regarder, et il dit des choses. Et en gros, ce qu'il préconise, c'est 1. Moins de protéines dans l'alimentation humaine, parce que nous avons une ration qui est trop protéinée, on ne dit pas trop, et deuxièmement, dans l'équilibre des protéines, un taux de protéines animales beaucoup trop élevé, et en tout cas pas durable, pas vivable, à l'échelle de la planète, c'est-à-dire si tout le monde consommait autant de protéines animales que nous consommons nous, ou que consomment les Américains, c'est encore pire, on en serait déjà en dehors de toutes les limites planétaires possibles. Donc ces taux doivent baisser. Ces questions-là doivent être posées. C'est des questions aussi de santé publique, hein, parce que trop de protéines, ça conduit à un certain nombre de maladies. Enfin, toutes ces questions-là doivent être discutées. Et donc, on ne peut pas purement et simplement considérer que tel produit, parce que son prix va augmenter d'un seul coup, doit être absolument cultivé. Donc, il faut qu'il y ait un vrai débat local sur qu'est-ce qu'on fait. Alors, encore une fois, comment on adapte nos besoins humains à la réalité du milieu, mais pas en allant chercher plus loin. Et donc pas en fabriquant, pas en modifiant le milieu pour qu'il vous produise ce qu'il ne vous produit pas à l'heure actuelle. Donc on a deux grandes réponses sur la question de la sécheresse. Un, ce qu'on appelle les solutions fondées par la nature, j'ai dit tout à l'heure que c'est plutôt des questions de réparation. Donc toutes ces questions-là qui favorisaient toutes les capacités de régulation du milieu. Et deux, une vraie discussion sociale sur à quoi sert l'eau, mais en prenant en compte toutes les considérations, notamment la question de la consommation brute et de la question simplement du prélèvement. Donc il faut regarder ce qui est du prélèvement et qui est rattrapé, regarder ce qui est de la consommation nette, et cette consommation-là, s'interroger sur à quoi elle sert. Et ça, c'est un débat de société. En gros, la sécheresse, c'est un vrai phénomène, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes déjà existants auparavant. Alors, d'abord, un premier bémol. On parle de sécheresse dans des pays qui sont des pays tempérés. c'est de la sécheresse de pays tempérés. D'accord. Il vaut mieux se raconter ça d'abord. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se faire des films sur le fait qu'on est le Sahara, etc. Peut-être ça viendra, mais pour l'instant, c'est pas ça. D'accord. Donc, raison gardée de ce point de vue-là. C'est un problème d'utilisation abusive d'une ressource, mais c'est une ressource qui existe. Et je viens de me rendre compte que j'ai utilisé ressources. Mais bon, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est, on a, donc, on a très probablement la possibilité, un, en pesant sur les utilisations, et deux, en rétablissement des équilibres du milieu naturel, on a probablement la possibilité de maintenir, de jouer le jeu. Ça, c'est pour ton côté pessimiste, d'accord ? Bon, ceci dit, si on ne le fait pas, oui, on va dans le mur. Et penser qu'on va y aller en continuant les mêmes consommations que ce qu'on fait jusque-là et les mêmes mécanismes de régulation des consommations que ceux qu'on a maintenant, c'est-à-dire par les prix du marché et avec des exploitations agricoles qui sont ce qu'elles sont, non. On n'y arrivera pas. Juste un dernier mot sur l'élevage. Là, tout le monde dit l'élevage français va être... c'est dramatique, les éleveurs, c'est totalement dramatique et tout, et c'est pas faux. Alors moi, je dis par ailleurs, très clairement, nos rations sont trop carnées et donc il faut diminuer l'élevage. Donc voilà, il faut s'expliquer là-dessus. Nous sommes, nous, l'Association de défense de l'environnement, absolument défenseurs de l'élevage pour des raisons très précises d'éléments des milieux naturels. Milieux naturels transformés un peu par l'homme, etc., mais qui ont leurs propres équilibres. Et en particulier, les prairies permanentes, qui ne restent prairies permanentes que s'il y a des animaux qui viennent les brouter. Les prairies permanentes sont des éléments de biodiversité, de rétention de l'eau, etc., qui sont des éléments extrêmement importants. Oui, il faut maintenir des prairies permanentes. Mais, une ferme de 1000 vaches, il n'y a pas les prairies permanentes pour mettre les 1000 vaches. Il n'y a pas. Donc, une ferme de 1000 vaches, elle conduit à des cultures de plein champ qui ne sont pas du tout vertueuses du point de vue des milieux naturels, qui ne sont que destructrices. Et donc, oui, l'élevage doit être maintenu sur des prairies permanentes. Donc, avec des exploitations forcément plus petites, parce que ça n'existe pas. On n'a pas la plaine du Midwest. Donc, si on a d'énormes troupeaux, eh ben, les énormes troupeaux, ils sont dans des usines à vaches. Donc, il faut des petits éléments et sur des zones où il y a beaucoup de prairies permanentes. Voilà. Mais tout ça doit être discuté. Et ça a un rapport immédiat avec la flotte.
Gilles, je t'ai pas interrompu pendant ton exposé là, mais je t'ai vu tiquer un moment, ta langue a fourché apparemment quand tu as utilisé l'expression ressource en eau. Pourquoi est-ce que ce concept de ressource en eau t'a semblé problématique ?
Dès l'instant où on parle de ressource en eau, globalement, ça signifie qu'on a une réflexion dans laquelle il y a quelqu'un qui se donne comme objectif d'exploiter une ressource qu'il considère comme quelque chose qui est à son avantage. D'accord ? Et donc c'est, tu te rappelles le vieux débat sur anthropocentré ou pas anthropocentré, on ne parle pas de la ressource en eau des brochets. On ne dit pas ça, on parle de leur milieu, mais on ne dit pas, c'est pas comme ça. Et donc l'utilisation du terme ressource globalement a comme effet d'inverser les priorités, et donc de poser la question des priorités différemment. Alors, pour l'instant, c'est subtil les priorités qu'on a. Hein. C'est l'alimentation en eau potable, les milieux et les activités économiques. Mais les activités économiques, bon, on va évidemment nous dire, mais si on cultive rien du tout dans une oasis, le fait de cultiver, c'est aussi important, c'est aussi un besoin humain direct, un besoin immédiat. D'accord ? Donc, ces hiérarchisations-là, il faut réellement complètement les poser et donc je tique à chaque fois qu'on parle de ressources en eau, c'est-à-dire je tique surtout quand on ne parle jamais d'eau, mais toujours de ressources en eau. Après, si ça m'échappe à un moment, c'est une réalité que là, dans l'endroit où je suis, j'exprime un certain nombre de besoins et je regarde de quoi je peux disposer, d'accord ? Et c'est aussi une certaine forme d'adaptation au milieu. Mais simplement, c'est le point de vue qu'on a au moment où on se pose la question de la distribution, et ça ne peut pas être le point de vue global qu'on a par rapport à l'ensemble du système. Voilà. C'est pour ça que je le dis, c'est pas un gros mot, ressources en eau. C'est un mot qu'il faut contextualiser. Quand on parle des besoins humains, c'est normal de parler de ressources. Quand on parle de la Loire, et pas simplement des usagers de la Loire, on ne peut pas parler dans la nature, il n'y a pas de ressources en eau. Ça ne décrit pas la nature, ça ne décrit pas le problème global. C'est cette subtilité-là, et donc à chaque fois maintenant, comme je me dis, attention aux ressources en eau, ça me sort tellement par les oreilles, que du coup quand je l'utilise, je me dis, franchement où c'est ? Je sais pas, ça se verra dans le truc. J'ai dit, oui, là je peux bien l'utiliser, parce que oui, quand on parle pas du phénomène global et qu'on parle de la situation, oui, c'est bien, c'est comme ça que ça se pose. Ouais. Deux mots rapides quand même. Pour l'instant, on ne parle que de quantité. Sur les questions de quantité, il y a des rapports extrêmement étroits avec les questions de qualité. Extrêmement étroits. Parce que non seulement certaines agricultures sont très consommatrices en eau, mais cette eau, en général, pour la rentabiliser, elle s'accompagne d'intrants. De beaucoup d'intrants.
Les intrants, c'est les engrais, les pesticides, c'est les ça. Trucs comme ça.
Alors, il faut distinguer dans les intrants les deux, mais ça, on ne va pas le faire parce que peut-être on le fera à un autre moment. Les intrants, c'est-à-dire les fertilisants, qu'on retrouve en quantité excessive et donc ça donne les phénomènes d'eutrophisation, etc. Et les phénomènes de pesticides, qui sont des phénomènes qui, comme leur nom l'indique, seed, ça veut dire tuer, qui tue et qui tue un certain nombre de choses et qui ont donc des atteintes sur la biodiversité considérables. Et donc, quand on cherche des rendements élevés grâce à l'irrigation, on cherche aussi des rendements élevés en mettant le maximum d'éléments pour s'assurer de la sécurité ou de s'assurer des croissances plus longues. Et donc, en général, ça s'accompagne d'une pollution supérieure. Et c'est quasiment vérifié tout le temps. Donc, il y a bien un lien très fort entre la quantité d'eau qu'on utilise et la pollution. Le deuxième élément, c'est que si on utilise la même quantité, mais que ça arrive dans des milieux où il y a moins d'eau, la concentration augmente. Et donc, on se retrouve avec des éléments où une pollution qui passait jusque-là, sur une période de sécheresse, elle ne passe plus. Et enfin, la dernière chose, qu'on ne dit pas très souvent, mais qui va devenir de plus en plus immédiat, c'est que dans les pollutions des rivières, il y a aussi les questions de température. Et les questions de température, évidemment, quand il y a moins d'eau, les questions de température deviennent absolument prégnantes. Et donc, on a des augmentations de température colossales. Alors, cette année, on a vu que la Méditerranée avait fait des augmentations de température absolument colossales, ce qui fait qu'on va hériter de problèmes probablement plus graves que ce qu'on avait jusque-là. Mais c'est vrai aussi dans les rivières. Et donc, la pollution par la température est une pollution importante. Ça fait trois éléments de qualité de l'eau qui montrent à quel point les questions de qualité et de quantité sont interpénétrées.
Gilles, je te remercie pour cet exposé. Et si tu veux bien, on se retrouve pour une prochaine émission pour évoquer plus amplement la question de la qualité de l'eau.
Je suis d'accord, mais pour que les choses soient claires, là on travaille en direct, c'est pas vraiment un exposé, c'est une réponse à un certain nombre de choses, il y a des doutes dedans, je suis pas certain que le statut de chacun des éléments de la discussion soit clairement posé sur ça c'est une position ferme, ça c'est un truc qui a évolué, etc. Et tout. Donc c'est pas véritablement un exposé. Alors c'est quoi ? C'est un échange. Il faut y lire à la fois des positions plutôt fortes, et j'espère qu'elles passent, mais il faut y voir aussi tous les éléments de doute et de recherche qui sont nécessaires. Et j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas de vrai point de vue scientifique sans ça. Et dans un exposé, les doutes seraient plus explicitement indiqués.
Merci à toi, à la prochaine.
Et à la prochaine. Ça marche.
C'est donc ici que s'achève cette nouvelle discussion avec Gilles Deguet, représentant de France Nature Environnement, membre du comité de bassin Loire-Bretagne. Gilles qu'on retrouvera donc au prochain épisode de cette saga Au Secours. Émission et série à réécouter sur notre site polynix et lavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs.
l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G101.